Père Armel Dutheil, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes venu faire à l'association Appel Détresse aujourd'hui à Brest?
Je travaille en Guinée et elle nous aide pour tout ce qui est à la fois, disons, l'aide humanitaire, le soutien aux familles nécessiteuses, aux malades, et également pour des projets de développement. Alors, dans un premier temps, je travaillais dans les camps de réfugiés au sud du pays, donc des réfugiés qui venaient du Liberia et de Sierra Leone. Et ensuite, la guerre est venue en Guinée, donc nous avons subi les attaques rebelles également dans le sud du pays. Et donc là, on a eu des soutiens spécialement. En argent, parce que c'était dans la forêt, c'était très difficile d'amener du matériel depuis qu'on a crié, mais pour acheter des outils pour permettre aux gens de travailler, pour former des éducateurs, spécialement des jardins d'enfants, parce que l'éducation est vraiment très importante pour nous et on voulait pas partir de la base, donc des enfants. Après, les éducateurs étaient pris en charge par les villages, mais au moins pour leur former, et aussi pour aider un peu à la vie sociale, je dirais, donc aménager des sources pour avoir de l'eau potable, tout ce qui est prévention pour la santé, etc. Et aussi aménager des bas-fonds pour avoir davantage de culture, parce qu'il y a un problème de faim, donc de manque de production, quoi, hein.
En Guinée, il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous faites pour cette population?
Alors, bon, le travail est un peu différent, bien sûr, dans les villages, en secteur rural et en ville. Dans les villages, c'est quand même possible. On essaye de lancer un certain nombre de petits groupements d'agriculture, d'élevage, de petits artisanats. Donc, mais tout ça, c'est une formation communautaire, parce que les gens vivent ensemble et on veut surtout pas casser donc la dimension communautaire. C'est-à-dire que on va chercher. On va demander aux jeunes de se mettre en groupe, de former une petite coopérative, si vous voulez, un petit groupement. Hein, et là, on peut leur fournir des fonds pour acheter deux ou trois animaux pour commencer un élevage, ou bien acheter des outils et des semences pour commencer la culture. Ou bien on va chercher, par exemple, un menuisier ou un tailleur, un petit mécanicien, et même chose du côté des femmes, qui acceptent de former 7 ou 8 jeunes, hein, pour qu'ils puissent avoir un métier. Et quitte à soutenir donc cet artisan, lui fournissant le matériel nécessaire. Notre gros problème pour nous, c'est en ville. Beaucoup de jeunes viennent en ville, à la fois parce que dans les villages, c'est encore une organisation très structurée, donc ils subissent le poids des anciens, donc pour se libérer. Mais venant en ville, ils sont dans les banlieues, il n'y a pas de travail. Ils vivent au maximum de petits métiers. Donc là aussi, on essaye de mettre en place des coopératives, mais c'est beaucoup plus difficile. Et surtout que venus en ville, depuis les villages, leur rêve, c'est de quitter la ville pour venir en Europe, avec tous ceux qui se noient dans les pirogues ou qui s'y meurent en traversant le désert. C'est l'un de nos problèmes avec les jeunes, quoi.
Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, des erreurs qu'on a commises ici?
Disons, l'un des gros problèmes, je dirais que les gens, même ceux qui sont en ville, ont gardé la mentalité traditionnelle, donc plus communautaire, comme autrefois dans les villages et dans le monde rural ici en France, quoi. Notre gros problème maintenant, c'est que les gens gardent cette société, cette dimension communautaire. Et c'est vrai qu'on la perd quand même, même on est obligé, même si on n'est pas d'accord avec toute la vie moderne qui nous coupe des familles, qui pousse à la compétition, à la promotion personnelle. Moi, je suis très frappé par cet aspect de promotion personnelle. La deuxième chose, on a quand même des sociétés, en France par exemple, où ça me pose beaucoup de questions, des sociétés qui se ferment à elles-mêmes, qui se ferment à l'étranger. Et ça, on fait tout pour que en Guinée, il reste ouvert à l'étranger. Donc, j'ai souvent eu l'occasion de dire, là où je travaillais, il y avait 125 000 Guinéens qui ont accueilli 150 000 réfugiés et qui les ont pris en charge pendant 3 ans, alors qu'ils étaient pauvres eux-mêmes, avant que les Nations Unies puissent intervenir. Donc, il y a tout cet aspect de la dimension communautaire, de l'accueil de l'étranger, qui nous semble vraiment très important et à garder, même si c'est pas toujours évident. Et puis aussi apprendre à vivre avec les autres religions. Les religions sont très très engagées dans la société guinéenne aussi, depuis la base jusqu'au sommet. À la base, donc que ce soit dans les villages ou en ville, nous mettons en place des communautés chrétiennes de base. Et ces communautés, donc qui se réunissent chaque semaine, ne se réunissent pas seulement pour la prière, la catéchèse, la liturgie et les sacrements, mais il y a à chaque fois un temps où on voit quelles sont les injustices dans le village ou le quartier, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les injustices, quels sont les pauvres et les nécessiteux et comment on va les aider. Il y a un temps pour la réconciliation, régler les problèmes entre familles, entre personnes, entre ethnies, entre religions, parce qu'il y a quand même quelquefois des tensions. Donc, les communautés sont vraiment très impliquées dans la vie sociale, même l'aménagement du quartier, enlever les ordures, assainir les égouts pour éviter les maladies, etc. Ça, c'est à la base. Et au sommet, bon, la Guinée, il y a eu beaucoup de problèmes, manque de démocratie, on avait un pouvoir militaire. Quand les gens ont voulu manifester, que ce soit en 2006, 2007, 2008, l'armée a tiré dans la foule. Et il y a eu des réactions. Et donc, l'Église est très engagée avec les musulmans à mettre en place une société civile pour permettre les libertés d'expression, pour travailler tout ce qui est les actions non violentes, parce que si on fait des manifestations, les gens se font tuer par les militaires jusqu'à maintenant, et surtout à construire donc une démocratie. On a beaucoup travaillé pour préparer les élections, préparer les gens aux élections, faire réfléchir sur les programmes. Alors en 2006 déjà, il y avait encore le régime militaire, mais un début de démocratie, et ce sont les chefs religieux qui, à la demande de la population, ont été choisis pour faire un comité de veille, donc des chefs, donc le grand imam des musulmans, le responsable de l'église protestante et l'archevêque responsable de l'église catholique, donc pour faire un comité de veille pour veiller à l'évolution du pays, éviter donc tout ce qui est les meurtres et les assassinats, lutter contre la corruption, voir quelles sont les actions du gouvernement, les évaluer et donner des orientations. Et maintenant pour les élections, ce sont aussi les chefs religieux qui ont produit des messages pour toute la population sur la paix, refuser bon, les guerres tribales, l'ethnocentrisme, la réconciliation, malgré tout ce qui s'est passé, etc. Donc il y a une influence très très grande. Hein. On est dans un pays où c'est un pays de croyants.